dizaine en français, donc en anglais on n'en parle pas, mais en français il y a une dizaine de livres sur le sujet. Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Le tout dernier qui est sorti sur le sujet, c'est le meilleur en plus, Kevin DeYoung. Donc s'il y a un livre que je conseille, c'est bien celui-là. Ce livre est sorti il y a 2 ans, et moi je donne ce cours depuis 10 ans. Mais j'étais un peu en marge, parce que en fait, le livre que vous trouvez, Decision Making and the Will of God, c'est une thèse de doctorat, donc c'est un gros pavé. Et c'est vraiment ce livre qui m'a bouleversé, qui a changé ma conception. Et du coup, c'est comme ça a bouleversé ma vie, je me suis dit, mais c'est important de l'enseigner. Alors j'ai essayé de prêter le livre, mais c'est trop gros et les gens ne pouvaient pas l'avaler. Alors du coup, j'ai dit, bon, je me suis attelé à la tâche et j'ai fait une synthèse de ce livre. Je l'ai personnalisé. Enfin, je n'ai pas personnalisé le livre, mais l'enseignement. Et du coup, j'ai enseigné. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir les visages qui sourient. Quand on entre, on se dit, waouh, je ne connais pas la volonté de Dieu, ça va être encore quelque chose de difficile. Et à la fin, on est libéré. Et du coup, il y a vraiment un poids qui tombe. Et c'est ce que je souhaite, si vous vous posez des questions sur ce sujet-là, parce que le thème de la volonté de Dieu, finalement, c'est toute la journée. Hein, on a des choix à faire, et on aimerait que ces choix honorent Dieu. Et du coup, il n'y a pas de place au n'importe quoi. Et en même temps, il y a un autre penchant, c'est qu'on peut vite se prendre la tête aussi avec ce sujet. Alors, je vais vous donner quelques aspects. Alors, là, c'est ma famille, pour ceux que ça intéresse. Donc, j'ai 3 enfants. Léni, alors, ouais, l'image est écrasée et pas la bonne couleur. Mais demain, on va améliorer ça. Voilà, donc j'ai 3 enfants, 10, 9 et la dernière 2 ans et demi. Et puis mon épouse Sandrine qui fait la Colomégatop à Champfleury. Et du fait, ce cours-là, je le donne pour les étudiants de défi. Est-ce qu'ils sont là ce soir? Ils auraient dû. En fait, je donne ce cours à défi chaque année depuis quelques années. Mais ça prend 12 heures. Donc vous voyez, là, on va faire une petite synthèse. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur le sujet. Et il y a différentes approches. Il y en a une, voilà, il y a certaines personnes qui considèrent que la volonté de Dieu, ils ne se prennent pas la tête. Pour eux, tous les feux sont verts. Et ils s'arrêtent quand il y a un feu rouge. Et donc, du coup, c'est assez simple. Mais généralement, on les considère un petit peu moins spirituels que les autres. Et du coup, on écarte un petit peu cette solution en disant que c'est trop facile. Et donc, voilà, c'est une approche. On ne se prend pas la tête. Mais voilà, il y a quand même un petit jugement sur ceux qui ont cette approche-là. Je ne rentre pas dans les détails, hein, mais je rentrerai plus tard dans les détails. Il y en a qui se prennent vraiment la tête parce que pour eux, Dieu, il doit être... Et il s'appuie sur des versets bibliques. Hein. Il y a toujours un verset biblique. On est des bons chrétiens évangéliques. Et donc, il s'appuie sur certains passages de la Bible pour que Dieu les dirige dans chaque détail de la vie, ce qui était un petit peu mon cas. Quand on va dans une grande surface, qu'on choisit une tablette de chocolat, il y en a au moins 150, et ben on prie pour connaître la volonté de Dieu. Si vous devez choisir un shampoing, j'ai compté, il y en a 340 à Carrefour. Et donc, vous imaginez, prier pour chaque détail, c'est ce que j'ai fait pendant quelques années. Mais pourquoi c'est comme ça? Bah, y en a qui prient le matin pour mettre la bonne paire de chaussettes, la bonne paire de chaussures, la bonne eau de toilette, parce que si on croisait l'âme sœur et qu'elle n'aime pas nos chaussettes, on passe à côté du plan de Dieu. Vous en souriez, mais ça ne fait pas rigoler tout le monde. En fait, pour eux, c'est vraiment capital. Je donnerai quelques illustrations tout à l'heure, mais de choses que j'ai entendues déjà quand je donne des conférences, j'ai entendu des gens me faire ce genre de réflexion. D'autres sont terrorisés devant la volonté de Dieu et ils ont peur de se planter en fait. Alors c'est pas celui-là, j'ai un coup d'avance là, mais bref. Ça non, c'était l'autre. Donc ça c'est ceux qui ont une vision un peu mystique de la volonté de Dieu. Par exemple, ils prient depuis des mois pour savoir où est-ce qu'ils doivent aller, sur quel champ missionnaire. puis il se balade dans la rue, glisse sur une peau de banane et pan, il tombe sur une boîte de riz basmati. Et là, ils font « Merci Seigneur, je dois aller en Inde ». Et je me dis toujours, mais t'imagines, s'ils étaient tombés sur un paquet de Mars. Et là, on se dit, ouais, effectivement. Alors, il y en a qui vont sonder leurs sentiments pour connaître la volonté de Dieu. Comme en général, lorsqu'ils prient, ils ne reçoivent pas un SMS ou un email dans leur boîte. Alors, ils vont essayer de faire une sorte d'introspection, ils vont essayer d'aller chercher dans leurs émotions, et essayer de sentir une paix pour telle ou telle chose, d'avoir des convictions. D'accord ? Et donc, voilà, c'est soit la paix ou l'absence de paix qui est souvent un indicateur, un panneau indicateur, on y reviendra dessus. Il y en a d'autres qui... donc ça, c'est... Voilà. Il y en a d'autres qui vont chercher des toisons. Hein, donc, c'est des signes. Ils sont devant un choix. Et donc, ils ne savent pas comment choisir. Et donc, ils vont faire comme Gédéon. Ils vont demander un signe. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé de mettre leur manteau par terre à la maison. Dans le livre, il raconte que lui, il ne savait pas trop comment faire au départ. Et puis, il a demandé au Seigneur, à un moment donné, tu vois, il a mis un tapis au milieu de la pièce. Et il ne savait pas quoi demander. Est-ce que je demande au Seigneur qu'il y ait de la rosée qui vienne dedans, ce qui est très peu probable, hein, quand même, quand les fenêtres sont fermées, ou si tout le reste doit être mouillé et ça reste sec. Il ne savait pas, alors du coup, il a laissé tomber, il s'est endormi. Ce n'est pas évident, parce qu'on trouve sur le web plein de choses. Il y en a un que j'ai relevé, j'ai trouvé ça intéressant, je le connais en plus, ce pasteur. Il a posté ça sur un site très connu, donc chrétien. Et donc lui, il était, il n'a pas l'habitude de faire ça, c'est ce qu'il dit en tout cas. Et il dit, bah écoutez, je ne savais pas où aller, est-ce que je devais faire un institut biblique ou pas ? Et donc il se prenait la tête avec cette question et il dit, bah écoute Seigneur, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais montre-moi un signe. Il prend sa Bible au hasard, il ouvre, c'est véridique. Hein, vous allez sur le top chrétien, vous pourrez trouver cette rubrique. Matthieu 2:20, j'ai lâché le morceau. Lève-toi. Il est tombé sur ce verset-là. « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Lui, il a pris ce verset en disant « Bah ça y est, merci Seigneur, je dois partir à l'école biblique. » Il n'est pas parti en Israël, il est parti à Bordeaux. C'était un pasteur pentecôtiste. Et donc, il est parti avec son épouse à l'Institut biblique. Et il en a déduit que c'était le Seigneur qui lui avait répondu de cette manière-là. Et donc, quand on voit cette foison de procédés, de méthodes, plus ou moins bancales, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de fiable là-dedans ? Où est-ce que je peux avoir une assurance pour prendre des décisions ? Est-ce qu'il faut vraiment chercher la volonté de Dieu de cette manière-là ? Est-ce qu'on doit trouver cette volonté précise, spécifique pour chaque détail ? Alors, je vais essayer de vous exposer rapidement la conception traditionnelle, celle qui s'enseignait et qui s'enseigne depuis des siècles. Et puis une autre approche. On fera une critique de cette approche-là, traditionnelle, parce que ce n'est pas parce que c'est populaire que c'est bon. Hein, vous savez de quoi je veux parler. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait, tout le monde le pense, que c'est juste. Et dans les milieux évangéliques, souvent, on fait les choses à tâtons, sans savoir. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas vraiment, qu'on n'étudie pas à fond. Puis du coup, ben, on fait du bricolage. Et ça, c'est bien notre génération de faire du bricolage. Et en fait, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Et si on mélange certains aspects de la volonté de Dieu, on va voir qu'il y a trois aspects de la volonté de Dieu, on fait un cocktail Molotov. Vraiment explosif et dangereux. Dangereux parce qu'on peut faire des grosses bêtises. Alors, on va regarder la conception classique de la volonté de Dieu. Premier point, c'est que tout le monde, alors là tout le monde est d'accord, pour dire qu'il y a une volonté souveraine ou une volonté décrétive. La volonté souveraine de Dieu, elle correspond au plan déterminé à l'avance par Dieu pour tout ce qui se produit dans l'univers. Hein, parce que Dieu est aux commandes, il connaît toutes choses, il est souverain, il règne, et il sait tout à l'avance. Ça c'est la préscience de Dieu. Rien ni personne ne peut faire échec à cette volonté, seul Dieu la connaît, et cette volonté n'est révélée aux hommes qu'au moment de son accomplissement. Je vais prendre quelques exemples. Matthieu 24, 36. Seul le Père connaît le jour et l'heure de l'avènement de Christ. Personne d'autre. Seul le Père. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça, c'est un des aspects de la souveraineté de Dieu. Un autre, c'est que Dieu, il connaît exactement le nombre de vos cheveux et il sait combien de petits oiseaux tombent à terre. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Des fois, c'est plus facile pour Dieu pour compter certaines têtes, mais ne vantons pas deux moineaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Ça, c'est intéressant. Hein, quand aujourd'hui on nous considère comme des animaux, ce texte nous dit clairement qu'on vaut beaucoup plus que des animaux. Beaucoup plus. Et Dieu sait tout, même le moindre cheveu qu'il y a sur notre tête. Donc ça fait partie de sa souveraineté. La crucifixion de Christ, c'était prévu de toute éternité. Dieu savait, il avait déjà son plan de rédemption dans la tête lorsqu'il a créé l'être humain. On a même été élus avant la fondation du monde, en tant que croyants. Acte 2, 23, 24. Cet homme livré, donc c'est Jésus, selon le dessein arrêté, selon la préscience, vous voyez, le fait que Dieu connaisse à l'avance, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Parce que Dieu l'avait prévu à l'avance. Acte 4, 27, 28. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Alors ça, c'est vraiment important de considérer ce type de volonté parce que c'est celle qui revient presque le plus souvent dans la Bible. Hein ? Quand on dit, vous utilisez probablement cette expression, « si Dieu le veut », d'accord ? Bon, est-ce que vous avez prié le dimanche matin pour venir à l'église ? Bon Seigneur, je te demande, est-ce que tu veux que j'aille à l'église ? À votre avis, la réponse, c'est quoi ? Ben évidemment, c'est pas ce genre de question. Vous voyez, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Il y en a plein d'autres où on ne doit pas se poser la question. Mais les apôtres, quand ils faisaient des projets, ils mettaient cette petite expression. Bien souvent, on la trouve dans le Nouveau Testament. Si Dieu le veut, si Dieu le permet. Voyez, on y reviendra dessus. En tout cas, il faut bien considérer cet aspect des choses. Cette volonté de Dieu, on n'a pas à la rechercher. Dieu ne nous la donne pas, tout simplement. Ça fait partie de son mystère. Donc celle-là, il ne faut pas la chercher parce que vous chercheriez en vain. D'accord ? Premier aspect de la volonté de Dieu. Deuxième aspect de la volonté de Dieu, c'est sa volonté morale ou la volonté préceptive. Le fait qu'il ait fait, il ait donné des préceptes. Donc cette volonté morale correspond aux commandements moraux qui sont révélés dans la Bible et qui enseignent aux hommes de quelle manière ils doivent croire et vivre. Elles décrivent Dieu, qui il est, pourquoi on doit l'adorer, comment on doit l'adorer, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que chrétien, qui nous sommes, notre identité. Elles révèlent toutes ces choses. Et cette volonté morale, elle est 100% révélée dans la Bible. 100% révélée dans la Bible. Il n'y a pas de nouveaux commandements qu'on devrait découvrir aujourd'hui. Hein, si, je ne sais pas, un illuminé arrivait dans la pièce là, qui se lève en disant « voilà un nouveau commandement ». Eh bien, avec l'Écriture, on pourrait lui dire « le canon est clos ». Il n'y a plus besoin de rajouter quelque chose à la Bible. Alors, ce n'est pas une Bible, mais imaginons que ce soit une Bible. Si quelqu'un se levait en disant « voilà, j'ai quelque chose à rajouter », il faudrait prendre nos Bibles, rajouter une page, puis commencer à écrire. Et ça, c'est dangereux. À mon avis, celui qui fait ça doit mieux lire la Bible, parce qu'il y a des avertissements très solennels dans l'Apocalypse. Et pour moi, l'Apocalypse, ce n'est pas seulement le dernier livre de la Bible, c'est le sceau qui vient chapeauter et clore le canon du Nouveau Testament. Alors ça peut se discuter, mais il y a un avertissement qui est dit, celui qui ajoute ou celui qui retranche sera puni sévèrement. Et on ne fait pas ce qu'on veut avec la Bible. Donc je ne sais pas si j'insiste sur ce point, je pense que c'est clair dans cette Église. J'ai trois pages que je peux développer sur l'authenticité de la Bible et le fait que c'est la révélation de Dieu, qu'elle est 100% inspirée et qu'on peut lui faire confiance. Alors je vais juste... Finalement, je vais glisser là-dessus assez rapidement. L'apôtre Paul écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté, préparé à toute œuvre bonne. Lorsqu'il écrit ces lignes, le Nouveau Testament n'existe pas encore. Il est en cours de rédaction. Donc il parle des écrits sacrés, en 3.15, donc juste avant, c'est-à-dire l'ensemble des écrits de l'Ancienne Alliance, qui étaient reconnus par les Juifs. En revanche, quand il explique aux Thessaloniciens que les paroles qu'il prononce avec les apôtres ne sont pas de simples discours à écouter d'une oreille distraite, parce que ce sont véritablement les paroles de Dieu. Donc quand l'apôtre Paul parle, il s'agit des paroles de Dieu. Regardez le texte, 1 Thessaloniciens 2.13, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Elle a cette particularité, la parole de Dieu, c'est qu'elle agit dans le cœur de celui qui croit. Et seuls les chrétiens ont cette interaction avec la parole de Dieu. C'est spirituellement qu'on peut comprendre ces choses, nous dit l'apôtre Paul. Et en fait, la parole de Dieu, la parole des hommes, des apôtres, il dit ici qu'on ne doit pas la considérer comme une parole d'homme, mais vraiment comme une parole de Dieu. Un truc qui va aller dans ce sens-là, c'est l'apôtre Pierre. Il va comparer les écrits de Paul avec les écrits sacrés. Regardez, 2 Pierre chapitre 3, versets 15 et 16. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Et voyez, il est en train de comparer ici les écrits de l'apôtre Paul, qui étaient compliqués, avec les Écritures, donc c'est-à-dire la Torah, l'Ancien Testament. Et donc, il les met au même niveau. Donc, lorsque vous voyez un texte écrit par l'apôtre Paul, il n'est pas en dessous de Jésus. Il a eu des révélations et il est au même niveau, en fait. Tous les auteurs de la Bible, les 66, il n'y a pas 70 auteurs, parce qu'il y en a qui ont écrit plusieurs livres, mais il y en a bien 25 qui ont écrit ces livres. On doit les classer au même niveau les uns avec les autres. Jude nous dit que cette foi, c'est-à-dire le contenu des Écritures, pas simplement la foi, la confiance en Dieu, la foi c'est aussi le contenu des Écritures, surtout dans ce contexte. Regardez ce qu'il dit, « Afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Et il y a peu de choses qui ont été faites une fois pour toutes. Le sacrifice de Jésus et ça. L'Écriture. Et donc, après, bien sûr, il y a les avertissements dans l'Apocalypse, mais quand on prend la Bible, on doit se dire qu'on est en face d'un texte sacré où toute la volonté nécessaire pour les humains a été révélée. Je prends juste ce dernier texte. Alors, il n'y est pas ici. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Donc, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Il y a une certaine marque de café qui disait « c'est pas la peine d'en rajouter hein ». Je ne fais pas de pub ici, mais c'est un peu comme ça avec la Bible. Une fois que tu as l'écriture, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc, la volonté de Dieu, elle n'est pas du tout mystérieuse. Elle est connue, reconnue, écrite noir sur blanc dans la Bible et on l'a avec nous. Donc ça, c'est précieux, les amis. D'accord ? Donc, volonté décrétive au départ, c'est-à-dire souveraine de Dieu, volonté morale de Dieu, et le troisième aspect, volonté spécifique et détaillée. Tout le monde est d'accord, juste tout ce que je vous dis là, tout le monde est d'accord. Hein, tous les livres enseignent la même chose. J'ai un temps de retard. Merci. Alors, la volonté spécifique, c'est quoi ? C'est le plan de vie unique, idéal et détaillé que Dieu a conçu pour chaque croyant. Tous les croyants ne sont pas d'accord sur ce point, c'est-à-dire, attention, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une volonté spécifique parce que Dieu, dans l'histoire, est intervenu de manière particulière. Après, c'est sûr, est-ce qu'il faut la chercher ? Est-ce qu'on doit avoir une méthode, une méthodologie? Est-ce que c'est un concept? Et c'est ce que des gens ont essayé de faire, de prendre des versets, un petit peu de partout, des passages, des textes. Et ils ont finalement fait une sorte de processus pour découvrir la volonté de Dieu avec des panneaux indicateurs. On va regarder ça dans le détail. En tout cas, comment c'est justifié? Tout simplement en prenant des récits de la Bible, les plus connus, par exemple Abraham, quand Dieu envoie Abraham en Canaan, Genèse 12, là on voit que c'est très spécifique. Il demande à Abraham, va, sors du pays d'où tu es. Il était au milieu des païens, à Ur, en Chaldée, et tu vas ailleurs. Tu ne sais pas où, mais le commandement est clair. Donc, vous voyez, pour Abraham, c'était quelque chose de spécifique. Éliézer, le serviteur d'Abraham, qui va devoir aller chercher une épouse convenable pour Isaac. Il y en a qui prennent ce texte-là comme référence en disant, ben voilà, ça c'est la méthodologie pour trouver son épouse. Je ne juge pas pour le moment, plus tard oui. Jacob, Dieu lui indique comment choisir les meilleures chèvres. Si vous vous rappelez, il y en a qui étaient tachetées, tout ça, il fallait que ça soit prospère. Et Dieu était avec lui, là. Et donc, c'est encore quelque chose de spécifique. Il lui dit, voilà, tu vas croiser celle-là avec celle-là, et ça va te donner quelque chose de fructueux. Le peuple de Dieu, la journée envoyait une nuée, ça leur faisait une belle ombre, un beau parasol, et la nuit, c'était une colonne de feu. Et donc, hop, pendant 40 ans, ils ont été guidés comme ça. Donc ça, volonté spécifique. Josué, Dieu va guider Josué lors du partage des territoires par le sort. Donc ça, c'était une autre manière. Donc on prend une pièce, on la jette, ou des dés, comme vous voulez, les méthodes actuelles. Le peuple de Dieu, Dieu va susciter des prophètes pour annoncer sa volonté au peuple. Donc là, c'était spécifique également. Dieu annonçait à un prophète, « Ok, tu vas leur dire ça. » C'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. Et donc, c'était très pointu, très spécifique, et le prophète dénonçait en général, en annonçant, bien entendu, la parole de Dieu. Parce que c'était 95% du ministère d'un prophète, c'était de rappeler les Écritures et les commandements. Saül utilise le sort pour découvrir la personne qui a rompu le jeûne. Enfin bref, vous pouvez prendre des dizaines de passages dans l'Ancien Testament. C'est pareil dans le Nouveau, Joseph et Marie, il y a un rêve. Dieu va dire à Joseph, fuis en Égypte pour préserver la vie du petit. Et donc, c'est ce qui va se faire, donc volonté spécifique. Philippe, donc là, c'est dans le Nouveau Testament. Il y a un ange qui va aller le voir, qui va lui demander d'aller voir, trouver l'eunuque sur son char, un dignitaire éthiopien. Donc ça, c'est spécifique. Dieu va parler à Corneille dans une vision. Dieu va parler à Pierre. En extase, il va voir descendre cette nappe pour lui dire « Ok, maintenant tu peux manger de tout. » La femme de Pilate, Dieu va avertir la femme de Pilate par un rêve qui va la faire souffrir. Paul et Barnabas, acte 13, là, le Saint-Esprit dit carrément « Mettez-moi à part Paul et Barnabas. » Donc ça, c'est spécifique aussi. Et les responsables d'église, le Saint-Esprit va guider les membres du Concile de Jérusalem en acte 15. Très intéressant. Alors, on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais on justifie en tout cas cet aspect des choses. Effectivement, pour certains personnages de la Bible, Dieu il a une volonté détaillée, spécifique. Le problème se corse lorsqu'on arrive ici. Parce que là, on est dans le schéma. D'accord ? Et donc, on reconnaît qu'il y a une spécificité, parfois, Dieu. Et donc, quelques personnes vont dire, maintenant, on va essayer de formaliser ça. Comment est-ce qu'on peut trouver une formule, une image qui va nous aider? Eux, ils utilisent la cible, d'accord? Donc, dans une cible, vous imaginez un grand rond comme ça. Le rond extérieur représente la volonté morale de Dieu, d'accord? Donc, personne n'irait dire que si, par exemple, vous épousez en tant que croyant une non-croyante, vous êtes dans le cadre, vous êtes à côté du cadre. D'accord ? Alors, ce n'est même pas la peine de se poser la question, est-ce que c'est la bonne ? Donc, on est en dehors du cadre. Mais par contre, Dieu a un plan parfait pour vous. Et comme il l'a prévu à l'avance, il faut que vous trouviez le centre de la cible. Ça, c'est la volonté idéale de Dieu. D'accord ? Et on va utiliser, par exemple, Romains chapitre 12. Vous connaissez ce verset par cœur, les 1 et 2, afin que vous discerniez la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. D'accord ? Et pour eux, ça signifie quoi ? que le parfait, c'est le centre de la cible. On n'étudie pas le contexte du verset pour savoir si c'est la volonté morale ou spécifique ici, d'accord ? Mais voilà, c'est simplement, je vous dis, un verset qui est utilisé, il y en a d'autres. Par contre, si on est entre les deux, et c'est le cas ici, le second choix, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre de la volonté morale, mais qu'on n'est pas au centre de la cible. On a le choix entre deux personnes. J'espère qu'on aura même le choix entre 25 personnes. Ce serait encore plus compliqué. Mais si on avait 25 filles et qu'il y ait un gars, donc lui, il a le choix, hein. Dans une église, en général, c'est un peu ça dans les stats, je ne sais pas. Bon, c'est pas moitié-moitié, hein. Il y a plus de filles que de gars, il me semble. Ce soir, c'est assez équilibré. Ça, c'est chouette. En fait, lorsque vous avez un choix entre Gertrude et Bernadette, d'accord ? Si Dieu a choisi Bernadette, elle est au centre de la cible, et que vous choisissez Gertrude, vous faites un second choix, et vous allez le payer tout au long de votre vie. Quand on fait un second choix, eh ben, du coup, il y a tout ce qui va en découler après. Ça, c'est ce qu'on enseigne. En général, lorsqu'on doit choisir son épouse, on prend beaucoup plus de temps quand c'est comme ça. Et il y a un jeune, je me rappelle, il y a quelques années, il est venu me trouver, mais complètement paniqué. Il était amoureux d'une fille qui était chrétienne, et il vient me trouver et il me dit « Écoute, Franck, ben, je suis amoureux de cette fille, mais je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu que je l'épouse. » Ah, mais complètement paniqué, hein. Et il ne savait pas quoi faire. Alors j'ai dû lui poser quelques questions. Qu'est-ce qu'il avait dans sa tête, ce schéma-là ? C'est-à-dire que Dieu a choisi pour moi une femme et que je dois absolument la trouver. Il faut que je tape dans le centre de la cible, parce que si je suis à côté, je vais payer les conséquences tout au long de ma vie. Et quand on a cette conception-là, eh bien, on s'y prend à deux fois avant de prendre une solution, avant de faire un choix, en fait. Parce que c'est délicat si on se trompe, vous imaginez ? Et donc, la question, c'était, mais Franck, comment on peut faire pour savoir le centre de la cible ? Est-ce qu'il y a... Comment Dieu va se révéler ? Et c'est là qu'interviennent les panneaux indicateurs. Les panneaux indicateurs, il y en a 7. D'accord ? Alors là, on n'est pas du tout d'accord, hein, d'accord avec, tout le monde n'est pas d'accord avec ces 7 panneaux indicateurs. Pas forcément les principes, mais le fait que ça indique la volonté de Dieu. D'accord ? Toutes les flèches devraient pointer dans la même direction. Premier indicateur, bien sûr, la Bible, un des bons évangéliques. Le premier indicateur, si ce n'est pas dans la volonté morale, on l'écarte. Donc déjà, on ne peut pas faire d'erreurs majeures. D'accord ? On serait au moins dans le cadre. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, on en a un deuxième, ça s'appelle les circonstances. Comme Dieu règne sur l'ensemble de nos vies et qu'il émette des circonstances, on peut en conclure qu'il va guider les événements de notre vie. Par exemple, si vous demandez un travail, vous allez envoyer un CV. S'il n'y a pas de réponse, vous en déduisez, selon les circonstances, que Dieu ne veut pas que vous alliez dans cette entreprise. Ou au contraire, s'il y a une acceptation, vous lui dites « Ah bah tiens, super, Dieu a ouvert une porte. » D'accord ? Donc ce sont les circonstances. Par contre, quand les deux entreprises répondent oui, là, on est embêté. Hein, ça, et donc, il nous faut encore un autre facteur. Ah bah voilà, mais attendez, on n'est pas à court de ressources. On a 17. Le conseil des autres. Ça, c'est important d'avoir des gens matures autour de soi. La Bible dit que c'est dans le nombre de conseillers que vient la sagesse. Donc, on va faire en sorte de s'entourer de personnes qui vont nous donner des conseils, ce qui semble sage. Les désirs et les dons. Alors ça fait partie du choix. C'est que pour trouver le centre de la volonté de Dieu, il faut que ça corrobore avec notre désir, nos désirs, et aussi nos dons, nos capacités. D'accord ? Donc si, par exemple, vous craignez la chaleur, vous savez que vous ne serez pas missionnaire en Afrique, par exemple. Parce que vous n'avez pas la capacité de résister à la chaleur, ou enfin bref. Je passe rapidement sur ces éléments, on y reviendra aussi dans le détail. Le bon sens, ça c'est souvent ce qui manque aux chrétiens, le bon sens. Hein ? En fait, il y a des choses qui sont énormes, et que comme on a mis tous ces paramètres avant, on n'a pas tenu compte du bon sens. Mais des fois c'est simplement ça qui suffit. Et donc un bon sens sanctifié, ça c'est un des panneaux indicateurs. Si le bon sens m'indique que je dois aller dans cette direction, j'y vais. Une direction particulière, alors j'ai raté un truc, une direction particulière ou une conviction. D'accord ? Donc là, c'est tout ce qui touche au rêve, au songe, une vision, une image qui nous vient en tête quand quelqu'un va prêcher, ou etc. Et donc, on se l'approprie personnellement. Et ça va devenir, parce qu'on fait comme Paul, comme Corneille, comme tous ces gens, parce que oui, et je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a des gens qui se convertissent aujourd'hui avec des visions, entre autres dans le monde musulman. J'en ai dans mon église. Donc là, c'est des choses extraordinaires. Mais c'est pas, ça les sort d'un milieu où on a une option très, très limitée sur la vie et sur la vie chrétienne, entre autres, sur Jésus, etc. Donc ça, c'est un des panneaux indicateurs. Et le dernier, le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Et là, on fait référence, bien sûr, à la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et donc, on va s'appuyer sur, bien sûr, Philippiens 4:7, mais aussi Romains 5:1, pour dire que, voilà, on veut ressentir cette paix. Et donc, ça, c'est plutôt l'introspection naturelle, intérieure. Donc, on appelle ça le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Et ça fait plutôt référence à un sentiment, finalement, la paix ou l'absence de paix, et on va analyser en fonction de ces paramètres-là. Donc, tous ces éléments-là devraient corroborer et pointer dans une direction. Une fois qu'on a pris nos précautions, qu'on a appliqué ces 7 panneaux indicateurs, alors on va faire des choix. Alors, comme on n'a pas le temps ce soir, d'habitude, ce que je fais, c'est que j'enseigne le vendredi soir ou je l'enseigne un dimanche matin et je leur dis, OK, toute la semaine, vous allez essayer de trouver la volonté de Dieu avec ces 7 panneaux indicateurs. Et dimanche prochain, donc le samedi, vous m'envoyez vos conclusions. Donc, j'ai une série de questions en leur disant, voilà, est-ce que cette méthode fonctionne tout le temps ou bien parfois seulement? Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? Quelles sont les difficultés rencontrées? Est-ce que vous pouvez dresser une liste des avantages et des inconvénients qui sont liés à cette conception? Ça, c'est un amalgame de plein de versets bibliques, hein, quelque part, de passages. Et on a fait une construction théologique et on a dit, OK, ces 7 panneaux indicateurs devraient nous aider à trouver la volonté de Dieu. Donc, je fais ça et généralement, les gens m'envoient un mail. Et tout ça. Donc, on n'a pas le temps de le faire. Donc, on va imaginer que vous avez testé pendant la semaine. Vous pourrez d'ailleurs essayer de le tester ce soir chez vous, et puis demain matin, on en rediscute, parce que vous aurez plein de choix à faire d'ici demain matin. Entre autres, savoir si vous allez venir au culte ou pas, si vous devez lire votre Bible, ce que vous allez manger, la tasse que vous devez choisir, le petit déjeuner, c'est important, les chaussettes, bien entendu, l'aftershave, etc., etc. Là, je plaisante, mais vous savez que pendant des années, j'ai vécu comme ça, parce qu'on ne m'avait jamais enseigné sur le sujet. Et moi, je lisais l'horoscope. Dans l'horoscope, en fait, on essaye de connaître notre avenir. Tous les jours, on aime savoir, tiens, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, hein? Puis finalement, quand on se convertit, comme on ne nous enseigne rien sur ce sujet particulier, on prend l'horoscope, on change de nom, on appelle ça la Bible, et on va essayer de finalement trouver les mêmes réponses. Donc, on peut... L'horoscope, c'est bien parce qu'il y a des dates. Mais là, comme il n'y a pas de date, ben, on prend au hasard. Puis, ah, tiens, qu'est-ce que tu veux pour moi ce matin, Seigneur? Quelle est la parole que tu as pour moi? Puis alors, des fois, ça tombe bien. Pas toujours. Pas toujours. Et ça conduit à une sorte, une forme d'esclavage. Parce que finalement, on ne sait plus prendre des décisions sans que Dieu nous guide. Et alors, du coup, on va faire une introspection permanente sur soi pour savoir si on doit ou pas faire cette chose. Je vous ai parlé d'une tablette de chocolat, mais c'est ce qui se passait quand j'allais à la grande surface. Je voulais savoir, Seigneur, mais laquelle je vais acheter? Alors, j'allais généralement dans des magasins pas chers quand j'étais étudiant, parce que je me suis converti en tant qu'étudiant. À Leader Price ou à Lidl, c'est génial, il y a 3 tablettes de chocolat. Si vous allez dans des Lidl, moi, pour les hommes, c'est parfait. Hein, si, mesdames, vous avez des courses à faire, on ne peut pas se tromper. Il y a 2 shampoings, 1 paquet de mouchoirs, etc. Donc, pour faire des choix, tu prends des cacahuètes. OK, il n'y en a qu'une. Donc, ça, c'est génial pour les hommes. Mais j'allais à Intermarché ou à d'autres trucs. Et du coup, il y avait quand même des choix à faire. Et je me prenais la tête pour une tablette de chocolat. Alors, ça vous fait rire, mais j'étais sincère. Et ce n'est pas parce qu'on est sincère et qu'on aime le Seigneur qu'on ne fait pas des bêtises. On peut être sincèrement dans l'erreur. Et je pense que j'étais dans l'erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que, en lisant bien correctement la Bible, et là, vous savez ce que j'ai dû faire quand j'étais à l'IBG, comme je me suis pris la tête sur ce sujet, j'ai pris toute la Bible et j'ai repéré tous les versets. Donc, j'ai pris un coloris particulier, c'était le mauve. Si vous prenez ma Bible, vous verrez. À chaque fois qu'il y a le mot voie, chemin, volonté de Dieu, ce que Dieu veut, j'ai surligné. Et donc, j'ai appliqué ce filtre à chaque fois. À quoi correspond cette volonté de Dieu? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est la volonté souveraine? Ou est-ce que c'est la volonté spécifique? Alors c'est un travail colossal, hein. Ça m'a pris du temps, mais j'étais motivé. Et du coup, le faire, ça m'a donné beaucoup plus d'assurance déjà pour enseigner, parce que du coup, je sais ce que la Bible elle dit sur ce sujet, mais ça m'a libéré, vous allez voir pourquoi. Hébreux chapitre 5, on fait une petite évaluation pratique, hein. Bon, après on fera une évaluation scripturaire, une évaluation pratique. L'expérience chrétienne, c'est-à-dire la mise en pratique des vérités bibliques, elle est normalement là pour confirmer la véracité des enseignements. Si, en pratiquant une méthodologie, on arrive à des incertitudes, ou au contraire, à plus de questions que de réponses, on doit se poser la question si notre méthode est juste. D'accord ? C'est logique. Hébreux 5, versets 12 à 14, « Alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. » Ce texte affirme que dans la sphère spirituelle, certains croyants en sont restés à l'enfance. Et ils continuent à se nourrir avec du lait, alors qu'ils pourraient tout à fait manger du steak. Et c'est quoi la clé ici pour passer de l'âge d'enfant à l'âge adulte? L'expérience de la parole de justice, l'usage en fait, la mise en pratique des commandements, la mise en pratique des promesses. Si la Bible nous dit « ne vous inquiétez de rien », et si tu continues à t'obstiner, à t'inquiéter, déjà c'est un péché, clairement, mais tu resteras comme un bébé. Pourquoi ? Parce que tu n'utilises pas, tu n'appliques pas simplement l'Écriture. Fais-moi confiance, ne t'inquiète pas. Et donc, l'application permanente de la parole de Dieu va nous donner un sens exercé à quoi ? Au discernement du bien et du mal, c'est-à-dire à la volonté morale. Et voyez, pour discerner la volonté de Dieu, et Romains chapitre 12 ne parle jamais de la volonté détaillée, c'est bien de la parole de Dieu dont on parle. Moi, je dis formatez pas, mais c'est ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous sachiez discerner quelle est la volonté de Dieu. On ne doit pas se laisser formater dans nos pensées, mais au contraire, pour discerner la volonté de Dieu morale, ce qui est bon, agréable et parfait, en fait, c'est la parole de Dieu. Romains chapitre 7, verset 12 et Romains chapitre 2, verset 18 nous dit que la volonté de Dieu, c'est la parole, tout simplement. Le même apôtre, dans la même épître, utilise le même vocabulaire. Donc vous pouvez reprendre la définition qu'il donne. Romains 7, 12, Romains chapitre 2, et il s'adresse aux Juifs. Vous qui connaissez la volonté de Dieu, Romains 2, 19. Et Romains 7, il dit, en parlant de la parole de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. La loi est sainte, juste et bonne. C'est les synonymes, en fait, de bon, agréable et parfait de Romains 12. Donc, rien que en lisant mais succinctement Romains et en prenant la même expression, vous allez trouver la définition du chapitre 12. Vous voyez ? Donc, déjà, on enlève ce verset de la théorie et c'est soulageant parce qu'on se dit, tiens, pas forcément, finalement, obligé de trouver le centre de la cible. Ce qui compte, c'est qu'on applique la parole de Dieu et qu'on ait ce sens exercé au discernement du bien et du mal. Alors, si les gens mettent en pratique cette théorie, c'est qu'il y a des avantages. Sinon, ils ne le feraient pas. On va regarder trois avantages. Donc ça, c'est suite au questionnement que j'ai posé aux gens. Qu'est-ce qui en ressort ? La première, c'est qu'elle est rassurante. C'est vrai que le fait que savoir que Dieu a une volonté parfaite pour notre vie et qu'il nous aide à la trouver, c'est rassurant. La deuxième chose, c'est qu'elle évite les erreurs majeures. Effectivement, on a dit, si on est en dehors du cadre de la volonté morale, alors on ne va pas faire des erreurs majeures. Donc c'est pas mal. Troisièmement, elle soulage notre conscience. Ben oui, parce que si c'est Dieu qui nous demande de faire quelque chose, du coup, je ne suis plus responsable. D'accord ? Et en fait, je pense que c'est le point fondamental. C'est que l'être humain, il n'aime pas être responsable. On se défausse devant les décisions, on ne veut pas assumer les conséquences de nos choix. Et ça, c'est probablement... Et en égoïste, en fait. C'est de l'égoïsme, tout simplement. Pourquoi on cherche la volonté parfaite ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on veut une petite vie pépère, sans problème. Ben oui. Seigneur, que je fasse la volonté parfaite, pas d'embrouille, pas de problème. J'aurai une femme obéissante, aimante, qui sera à mon service, ça je parle pour les gars, docile, ça c'est pas biblique, Mais c'est simplement que, en fait, on projette nos propres sentiments, nos désirs, notre égoïsme finalement sur la Bible et on la plaque dessus. Et puis du coup, on se dit, mais ouais, c'est carrément mieux si c'est Dieu qui fait toutes ces choses, je suis plus responsable du coup. On veut acheter une maison, Seigneur, montre-moi quelle maison je dois acheter. J'ai une femme qui est venue dans mon église une fois et puis elle vient me voir, elle me dit, Franck, tu sais quoi, j'ai trouvé la maison de mes rêves. Je dis, ah bah, c'est super. Oui, oui, Dieu m'a dit que je devais acheter cette maison. Je dis, ah, et Dieu t'a dit comment ? T'as entendu sa voix ? Non, 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 mais intérieurement, je sais que c'est celle-là qu'il faut que j'achète. Je lui dis, tu as fait un choix là qui va t'engager sur des années, donc tu choisis simplement parce que tu ressens quelque chose. Tu n'as pas d'autre matière, tu sais où elle est placée. Non, non, mais je suis convaincu. Ok, si Dieu t'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise quelque part ? Et on va appuyer avec ce « Dieu m'a dit ». Très dangereux, les amis, n'utilisez pas trop. Je comprends ce qu'elle voulait dire, mais malheureusement, c'était complètement à côté de la plaque. Deux mois plus tard, elle vient me trouver dépression. Mais déçue au possible, elle a acheté une maison à côté d'une route. Il y avait 15 000 voitures qui passaient tous les jours. Il y avait tout à refaire dedans. Et bien sûr, elle n'avait pas vu toutes ces choses. À votre avis, à qui elle en voulait ? Pas au pasteur, À Dieu ? Seigneur, c'est toi qui m'as dit d'acheter cette maison ? Regarde ce que c'est. Mais après, vous pouvez prendre cet exemple-là et le catapulter à plein d'endroits différents et vous allez voir, ça fonctionne aussi. Les déçus de l'Église, par exemple, les déçus de plein de choses, souvent, c'est parce qu'on a projeté ces éléments-là et c'est notre propre égoïsme, finalement, qui est la source de tout ça. Je veux une vie tranquille. Malheureusement, si vous lisez la Bible, vous allez voir que le chrétien n'a pas une vie paisible ou tranquille. On est même appelé à souffrir. Dieu nous a formés pour qu'on souffre. Je vais prendre ma Bible. Je ne sais pas où elle est. Je vais pouvoir prendre votre Bible avec moi. Je ne l'ai pas écrit ici, mais ça doit être Marc, chapitre 10. C'est une promesse. Généralement, il y a un évangile aujourd'hui qui est un faux évangile. C'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Marc, deuxième évangile, Marc chapitre 10. Et il y a une super promesse. Verset 29. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple, présentement, dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Et là, on s'arrête et on se dit « Alléluia !» D'accord ? C'est l'évangile de la prospérité. C'est ce qu'on nous bassine à longueur de temps, parce que je suis obligé d'écouter ce genre de message. Ça s'appelle évangélique aujourd'hui. C'est dangereux, mes amis. Ils lisent pas la fin du verset. Verset 30, donc des pères, des enfants, des terres, avec quoi ? Avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ah ah ! Oui, Dieu va nous bénir, effectivement. Il prend soin de nous. Il prend soin des petits oiseaux, donc il prend soin de nous. Mais il n'a pas dit que ce serait une longue vie tranquille. Hein. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, la vie chrétienne. Ici, il y a le terme persécution. Martyr, souffrance. Ben oui, quand tu veux prendre position en tant que chrétien dans la société, tu vas souffrir. Puisqu'il le faut, nous dit l'apôtre Pierre, vous souffriez pour un peu de temps, avant la gloire à venir. L'apôtre Paul, tout ce qu'il a vécu. Vous vous rendez compte le nombre de souffrances? Si l'apôtre Paul n'avait pas été en prison parce qu'il a prié pour la volonté de Dieu et que le centre de la cible lui disait « Tu vas à Jérusalem », acte 15. Agabus, ça fait une prophétie. Quelle est la réaction de l'Église? Agabus vient, il prend une ceinture, il lui attache les mains, il lui dit « Bah voilà ce qui va se passer pour toi ». Ok, prophète, rien à dire. Comment réagit l'Église? Paul, faut surtout pas que tu ailles à Jérusalem! Mais Paul ne va pas à Jérusalem. Et qu'est-ce que Paul a fait? Ben, il est allé à Jérusalem. Ah, contre-exemple parfait. Ici, on voit que Dieu, il avait une destinée pour l'apôtre Paul. Et il s'en fichait, l'apôtre Paul, qui doit passer par des moments. Il allait son spa à Thessalonique, à Corinthe, c'était super. Il avait de la bonne bouffe là-bas. Et il voulait bien faire ces choses, mais... ce qui passait en priorité, c'est ma mission. Ma mission. Et la mission, c'était « tu vas mourir ». Mais il le savait, ce n'était pas un problème pour lui. Mais vous avez vu la réaction des gens dans l'Église? Ah, on va lui éviter la souffrance. C'est un apôtre Pierre qui dit à Jésus « mais personne ne te touchera, tu ne vas pas mourir, je suis là ». Et Jésus lui dit quoi? « Arrière de moi, Satan, tu ne veux pas la souffrance, mais ça fait partie de la vie ». Vous voyez? Et il me semble que voilà pourquoi souvent on cherche le centre de la volonté de Dieu, parce qu'on a notre petit nombril et qu'on veut en prendre soin, notre petite personne. Je suis le premier comme ça. Ma tendance va dans cette direction, à toujours chercher la facilité, à ne pas me planter. Bien sûr, on ne va pas se planter exprès non plus. On n'est pas des fous ou des masochistes, on ne cherche pas les coups. Mais, vous voyez, ce qu'on projette, c'est pour ne pas se planter. C'est égoïste en fait, tout simplement. Égocentrique. Donc, maintenant, on va regarder les inconvénients, parce qu'il n'y a pas que des avantages. J'ai dit les avantages ne font que faire en sorte que les gens entretiennent ce concept. Mais il y a beaucoup d'inconvénients, en fait, et même beaucoup plus que des avantages. Le premier, c'est que si vous essayez d'appliquer ces 7 panneaux indicateurs, vous allez mettre beaucoup, beaucoup de temps avant de choisir. Et puis, très peu de certitude. Donc la première, c'est qu'elle est complètement inapplicable, cette méthode, dans le quotidien. C'est pour ça que les gens disent en général, « Oui, mais attends, cette méthode, elle n'est valable que pour les grandes décisions de la vie. » Alors moi, je dis souvent, « Mais montre-moi un verset de la Bible où il n'y a que les grandes décisions de la vie qui sont importantes pour Dieu. Quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout. Manger, boire, c'est du détail. Et pourtant, on peut le faire pour la gloire de Dieu. » Mais c'est un principe, une attitude, avant d'être le centre d'une cible. Donc déjà, inapplicable dans le quotidien. La deuxième, c'est qu'elle peut provoquer de l'inquiétude. Si le fait d'être guidé est rassurant, celui de se tromper est paralysant. Parce que du coup, on se dit « Ah, mais si je me trompe !» Alors du coup, on n'ose plus prendre, plus faire de choix. Et donc, on repousse. Et en général, on passe à côté des opportunités quand c'est comme ça. Parce que Dieu, il va placer des opportunités devant nous. Si on est dans le train, on se demande, est-ce que je dois annoncer l'évangile à mon voisin? C'est une bonne question. Pas facile. Moi, je prends ma Bible, je l'ouvre, ou un livre, et puis je le mets en exposition, ou je tends des perches. Et je fais en sorte que la personne réponde. Et parfois, je vais avoir l'occasion, et là, j'y vais plein pot, j'annonce l'évangile, mon témoignage. Mais quand c'est quelqu'un que je vais revoir tous les jours, peut-être qu'il faut réfléchir deux fois. Parce qu'on peut se griller aussi dès la première rencontre. Donc, il faut prendre du temps. D'accord? Et du coup, il n'y a pas de réponse toute faite. Mais en général, quand on est devant des dizaines de décisions dans une journée, si on essaye de mettre ces 7 panneaux indicateurs, mais ça va nous inquiéter. Parce que mais si je me plante, finalement, je vais payer les conséquences tout au long de ma vie. Bref, je vous donne une illustration pour vous dire. Véridique. Quelqu'un avait 3 verrous. Il en ferme 2. En laissant le troisième, en disant c'est bon, il y en a déjà 2. Il sait intérieurement qu'il vaut mieux en fermer, fermer les 3. Mais il n'en ferme que 2. Il s'en va, prend sa voiture, il arrive au carrefour. Boum ! Il se fait rentrer dedans. Et là, il se dit « Ah ! Je sais pourquoi j'ai eu cet accident. Les 2 secondes de décalage qui m'auraient fait éviter la voiture, c'était mon verrou. » Et oui, quand on a ce concept dans la tête, finalement, ça rentre dans le moindre détail. Du coup, c'est vachement important si je ne veux pas avoir un accident. Donc, il faut bien fermer mes 3 verrous. Enfin, vous voyez, là où je veux en venir, c'est que finalement, on est super inquiet pour tout. Elle peut encourager le fatalisme. Lorsqu'on a plusieurs choix équivalents, qu'est-ce qu'on est tenté de faire ? Utiliser le procédé de la toison pour trancher. Et dans ce cas, ça va être les circonstances qui vont nous guider. Vous savez, dans une des conférences que j'ai données, une fois, j'ai une jeune fille très jolie qui est venue me voir. Elle m'a dit, tu sais, j'ai une anecdote à te raconter. Je dis, ah bah vas-y. Alors, je l'ai gardée celle-là, parce que c'était assez croustillante. Elle était dans un institut biblique. Et il se trouve que, comme elle était mignonne, il y avait beaucoup de gens qui tournaient autour d'elle, quoi. Et donc, un soir, il y a un gars qui vient la voir et qui lui dit, écoute, Dieu m'a dit que tu devais être mon mari. Ouf, vous imaginez, vous entendez ça, les filles, là ? Dieu m'a dit, tu dois être... Alors elle s'est dit, attends, une femme, pardon. Elle se dit, mais waouh, et si c'était vrai ? Parce que, en fait, c'est ça, c'est... Si on ne connaît pas les gens, j'ai prié longuement pour ça, et Dieu m'a dit, tu devais être ma femme, d'accord. Pendant 2 semaines, elle ne dormait pas bien la nuit. Jusqu'au jour où elle a trouvé son sauveur. Un autre collègue de la même classe est venu la trouver en lui disant à peu près la même chose. Et là, elle n'a pas pouffé de rire pour ne pas se moquer de lui, mais elle s'est dit, ok, merci Seigneur pour la réponse. Parce que Dieu, il ne veut pas qu'on soit polyandre. Une femme pour 2 maris, ce n'est pas terrible ça. Ce n'est pas la polygamie, la polyandrie. Et du coup... ça a donné une réponse finalement à cette fille. Mais si on fonctionne de cette manière, bah ok Seigneur, allez, j'ai 2 choix équivalents. Soit c'est Gertrude, soit c'est Bernadette, on reprend nos 2 candidates. Si elle passe à gauche de l'arbre, c'est Gertrude. Vous savez que j'ai fonctionné comme ça. Regardez bien comme c'est vicieux l'être humain. Quand je ne voulais pas quelque chose, qu'est-ce que je me disais ? Bon, elle passe à gauche, mais ce n'était pas celle-là que je voulais. Alors j'ai dit, ah bah Seigneur, non, c'était quand même pas comme ça. Je disais, ah non, mais ça c'est moi, c'est moi qui ai imposé le truc, c'est n'importe quoi. Par contre, quand ça allait dans mon sens, je disais merci Seigneur, parce que c'était la plus belle. Elle est bien passée à droite, merci Seigneur. Ça s'appelle de la superstition. Quand j'étais footballeur, c'est exactement ce que je faisais quand j'étais pas chrétien. J'entrais dans une cage. Des fois, je n'avais pas mes gants pendant 2 semaines parce que c'était les gants qui avaient gagné le dernier match. Tu te rends compte ? C'était important de toucher le poteau, la barre transversale, l'autre poteau, de mettre ma bouteille à gauche, cracher dans mes gants 2 fois. Et voilà. C'est des rituels, en fait. C'est rassurant pour l'être humain, mais c'est complètement à côté de la plaque. C'est du fatalisme, ça. C'est de la superstition, mais ce n'est pas du tout biblique. Quatrièmement, ça peut favoriser l'immaturité. Bon, je ne vais pas vous raconter un autre exemple, parce que celui d'avant, je pense qu'il fait office. On voit combien c'est immature. Dieu m'a dit. Ok. Bah, mes amis, si Dieu disait tout à tout le monde, vous imaginez, le dimanche matin, on serait mal barré. Alors, vous savez quoi ? À l'Assemblée Générale, s'il n'y a pas 100%, c'est qu'on n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Donc tant qu'on n'est pas 100%, 0%, on ne prendra pas de décision. Bon, on est mal barré là. Dans une Assemblée Générale avec des chrétiens, j'ai jamais vu de 0%, 100%. Ah, et si, ça arrive. Quand on élit le pasteur, qu'il est populaire au début, la première année, la troisième déjà... Il y aura au moins 10 personnes. Ça, puis après, ça dépend du nombre qu'on est, hein. Mais on n'est pas populaire avec tout, avec tout le monde. Et du coup, vous voyez, comment on fait dans ces cas-là? On est chrétien. Puis il y en a un qui, au milieu de la salle, va se lever en disant « Ah, moi j'ai prié le Seigneur et il m'a dit qu'il fallait voter pour le candidat A. » Hein, puis un autre frère dans la salle, il dit bah, « C'est bizarre parce que moi j'ai prié la même chose et moi c'est plutôt le candidat B. Mais je le ressens fortement intérieurement, c'est vraiment une conviction. » Qu'est-ce qu'on fait là? Et alors pire, ça fait 2000 ans qu'on se bat pour des questions théologiques. Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu, il aurait une solution toute faite? Mais attends, je prie, tiens, je t'envoie la réponse, et comme ça, tout le monde est d'accord, plus de problème. Et il n'y a plus de dénomination comme ça. Allez, on solutionne tout. Vous voyez, si c'était comme ça, ce concept fonctionnait, on devrait arriver à ces conclusions. On doit toujours trouver le centre de la cible, il faut que les panneaux indicateurs aillent dans le même sens, c'est tout. Et vous voyez, ce n'est pas du tout mature, ce genre de position. Donc ça peut faire perdre un temps précieux, ça encourage le subjectivisme, bien entendu, parce que, ou surtout aujourd'hui, où il faut qu'on ressente les choses. Et je ne dis pas qu'on est subjectif, on est des êtres subjectifs. Il y a plein de décisions qu'on prend dans une journée qui sont subjectives. Bah aujourd'hui, je ne me prends plus la tête avec le chocolat, mais si j'ai envie de chocolat noir, je vais prendre du chocolat noir. Puis une autre fois, bah, ça va être du chocolat blanc. Vous voyez, mais si j'ai mal digéré à midi, bah, je vais prendre un aspirine. Non, un oxyboldine ou un truc dans ce genre. Mais vous voyez, le fait qu'on prenne des choix qui sont relatifs à ce qu'on ressent, mes amis, mais waouh, ce n'est pas nos sentiments qui doivent nous guider. Et vous savez, les versets qu'on balance comme ça, la paix de Dieu. Ok, prenons le contexte, Philippiens 4. Il est dit... Ne vous inquiétez de rien, mais par la prière, avec des supplications et des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées en Christ. Ça, c'est la base. C'est le cœur et les pensées en Christ. C'est ça la volonté de Dieu. Pour pas que tu divagues. Vous savez, moi, quand je n'étais pas chrétien, lorsque je prenais une décision ou lorsque j'étais devant un choix important, bah, par exemple, quand j'étais étudiant, je n'étais pas chrétien, donc du coup, bah, j'ai dû, à un moment donné, postuler à plusieurs écoles. Bah, on ne sait pas, bah, on n'est pas tranquille. On n'est pas bien dans notre peau. Tant que ce n'est pas tranché, on n'est pas bien. Et je n'étais pas chrétien. Le jour où j'ai reçu ma réponse, on était soulagés. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être chrétien ou que c'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Au contraire, dans une situation pénible où on a de quoi s'inquiéter, vraiment, il y a des inquiétudes. Quand on a des enfants, par exemple, qu'on ne sait pas où ils sont, qui sont perdus, ça nous est déjà arrivé de les perdre. On a perdu notre gosse une fois. On se retourne, on est dans une grande surface. Ma femme s'occupe à un truc, moi je m'occupe à l'autre. Ou une autre fois, on sort de la voiture. Justement, il faisait nuit, c'était en hiver, cette période de l'année. Moi, je sors d'un côté, je fais descendre la petite, elle a 2 ans. Donc, je la fais descendre. Je vais ouvrir le coffre, ma fille en attendant, elle part, moi je croyais qu'elle était avec ma femme croyait qu'elle était avec moi, et la petite, en direction du boulevard, à 2 ans. Je peux vous dire que là, c'est monté dans les tours. Hein. Et en fait, c'est simplement normal qu'on soit inquiet. Là où le chrétien fait la différence, c'est qu'il remet cette situation en Dieu. Alors, c'est pas forcément... instantané l'appel, hein, parce que tant qu'on n'a pas retrouvé la petite. Mais on remet ça à Dieu. Ouh, Seigneur, tu es au contrôle. Finalement, ça me soulage quelque part. Et c'est ça que le chrétien est appelé à vivre. C'est dans une situation difficile où tout le monde, où la plupart des humains seraient paniqués, le chrétien, il a déposé ça à Dieu. Et du coup, ça ne lui appartient plus. Il a déposé son fardeau, il a pris son gros sac, là, plein de soucis, il l'a déposé. Et okay, du coup, il a pu le porter. Et c'est ça, cette paix qui surpasse toute intelligence. Quant à Romains 5, qui est souvent utilisé pour la paix, ça n'a rien à voir. C'est le fait qu'on est justifié. Nous sommes en paix parce qu'on est justifié par Christ. C'est la justification qui nous déclare juste, qui nous déclare en paix avec Dieu. On n'est plus sous la colère de Dieu. Romains 5, 1, c'est ça. Le contexte, c'est la justification. Ça n'a rien à voir avec une paix subjective. Bien entendu, quand on appartient à Jésus... cette paix objective du fait qu'on n'est plus en guerre contre Dieu fait qu'on va ressentir une certaine sérénité de l'âme, d'accord ? Mais ça n'a rien à voir avec les petits gargouillements que j'ai ressentis parce que je crois que c'est la volonté de Dieu. Non, là, c'est simplement parce que tu as faim. Donc, le subjectivisme, mes amis, mais faites très attention avec ça. J'ai un groupe de maisons, là, chez nous, on a un groupe de maisons, on a deux femmes qui sont non chrétiennes, qui sont en approche de la foi, et qui commencent à lire la Bible, mais alors elles analysent tout en fonction de ce qu'elles ressentent. Mais c'est terrible d'être comme ça. Et on leur dit, mais attends, la Bible, elle dit ça, soit tu fais confiance à la Bible, et ton ressenti, tu verras, il va s'adapter. Tes émotions, elles vont suivre ta volonté. Hein, c'est comme un train, quelque part. La locomotive, c'est mon choix, mes convictions qui viennent des Écritures. Et puis finalement, les émotions, elles vont accompagner, elles vont suivre naturellement ce que tu as choisi. D'accord ? Et du coup, mais ça change complètement leur vision du monde. On parlait de l'homosexualité cette semaine, et alors elles sont venues avec tout ce qu'elles ressentent. Oui, mais moi, je connais un ami qui fait ça. Mais oui, mais il est heureux. Et puis ici, et puis là. Puis je leur disais, mais c'est pas une question de ressenti, c'est une question de plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de cette chose-là ? Et une fois que tu as adopté la pensée de Dieu, mais ça change ta vision du monde quelque part. Et ce n'est pas une question de ressenti. Parce que moi, je peux être attiré par du chocolat, par des femmes, par des hommes. Vous voyez, on a tous des travers, on a tous des attirances, on a tous une sensibilité vers certains domaines. Il y en a, c'est le vol. Ils peuvent pas, ou le mensonge. Dans mon église, j'ai un gamin, il a menti toute sa vie. C'est un mythomane, mais complet. Hein. Et petite tendance encore à glisser des petites fadaises de temps en temps. Mais c'est parce que, voilà, c'est comme ça. Lui, c'est sa tendance, et on a tous des tendances. Mais ce qui me rassure, c'est de voir qu'il change avec le temps. Et pourquoi ? Bah parce qu'il sait que c'est la vérité, parce qu'il ne doit pas tromper son frère. Il ne peut pas tromper Dieu, mais il peut tromper ses frères. Et il ne doit pas le faire. 1 Thessaloniciens 4. N'usez pas de fraude envers vos frères. 1 Thessaloniciens 4:4, c'est facile à retenir, ça. On fait une petite pause. Attendez, non, on va finir. Ce que je viens de... 7. Ah, intéressant. On finit, il y a encore deux points là pour les inconvénients et après on fera une petite pause et puis on... C'est quelle heure ? À quelle heure on mange en fait ? 7 heures. À 7 heures, ok. Elle donne plus de doutes que d'assurance. Cette conception classique de la volonté de Dieu donne plus de doutes que d'assurance. En fait, si on essaye d'interpréter les signes ou les panneaux indicateurs, on va constater qu'il faut répondre à une foule de questions avant de pouvoir les mettre à profit. Par exemple, est-ce que je ressens des pressions intérieures qui pourraient indiquer le chemin de la volonté spécifique de Dieu ? Deuxième question, quelle est la source de ces impressions ? Troisième question, quel est le sens ou le message donné par ces impressions ? Parce qu'après, il faut interpréter le message. Y a-t-il d'autres signes qui confirment ou corrigent mes impressions intérieures ? Quel est le message donné par ces autres signes ? Le message que je reçois fait-il autorité ? Combien faut-il de signes pour arriver à la certitude que cela vient de Dieu ? En fait, si on est honnête, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de questions une fois qu'on essaye d'appliquer ces panneaux indicateurs que si on ne le fait pas. Et du coup, ça me met dans beaucoup plus d'incertitudes. On n'est plus du tout sûr de ses choix, quelque part. Alors que Dieu nous dit, mais c'est d'une clarté, vous allez voir les versets qu'on va voir tout à l'heure. Et le dernier point qui est pour moi fondamental, c'est qu'elle l'éloigne et elle peut détourner le chrétien de son but. Quel est le fondement de la vie chrétienne ? Qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien et un non-chrétien ? C'est qu'il y en a un qui marche par la foi et l'autre qui marche par la vue. Il y en a un qui s'appuie sur la Bible, sur les promesses des Écritures, et l'autre qui s'appuie sur ce qu'il voit, ce qu'il ressent. D'accord ? Le chrétien, même s'il ne ressent pas les choses, il s'appuie sur ce que la Bible dit. Et il fait confiance à Dieu. Hein ? 2 Corinthiens 5, 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on met en place ces panneaux indicateurs ? Eh bien, on essaye de se rajouter des petites béquilles parce qu'on est aveugle. Ça part d'un bon sentiment, mais du coup, on abandonne la foi. Fais-moi confiance, c'est le message de la Bible, mais c'est martelé des milliers de fois, parce que c'est le plus important, marcher par la foi et non par la vue. Fais-moi confiance. Quand il a appelé Abraham, il ne savait pas où il devait aller, Abraham. L'apôtre Paul, on le regardera tout à l'heure dans acte 15, acte 16, il ne savait pas non plus où il devait aller. Il dit, mais je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais je sais que je dois y aller. Allez hop. Mais il ne sait pas ce qui va lui arriver. Mais il a une mission. Et nous sommes en mission. Donc, si je fais un résumé, on est bien embarrassé. Parce que si vous aviez mis en place les 7 panneaux indicateurs pendant toute la semaine, vous vous apercevez de la chose suivante. C'est que plutôt que de pointer dans une même direction, eh ben les panneaux indicateurs, il y en a qui vont à gauche, d'autres qui vont à droite, d'autres qui vont à l'est, à l'ouest, etc. Et puis on se dit, mince, finalement, ça va être difficile de trouver le centre de la cible quand il y a différentes directions. Hein. En fait, c'est le constat. C'est le constat. Finalement, on a plus, mais beaucoup plus de questions, alors qu'on devrait avoir des certitudes. Regardez ce que dit la Bible dans les versets du Nouveau Testament. Mais c'est d'une puissance. Ne vous conformez pas au monde présent, on l'a dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il n'est pas en train de parler à l'élite des chrétiens qui sont suspendus au-dessus des autres, plus spirituels. Il parle à tous les chrétiens de Rome ici, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Donc ça veut dire qu'on peut le faire. Ok ? Éphésiens 5, 17, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. D'accord ? On peut la comprendre. Colossiens 9, c'est pourquoi aussi, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. On peut être rempli de la connaissance de sa volonté. C'est des certitudes. Et bien sûr, Colossiens 4, 12, Épaphras, votre compatriote, vous salue, serviteur du Christ Jésus. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Pleinement convaincu. Vous voyez, ce sont des passages qui nous montrent qu'on doit trouver cette volonté de Dieu, qu'on peut la trouver, qu'on peut en être convaincu. Alors j'ai mis un peu le souk exprès là. J'ai fait de la déconstruction. C'est-à-dire que j'ai prêché quelque chose qui n'est pas juste, hein, c'est volontaire, mais c'est ce qu'on enseigne classiquement. Je vais donner les solutions après la pause, d'accord ? Donc là, ça va bouillonner un petit moment. On va faire une pause et on va attaquer dans une deuxième partie une autre conception qui me semble plus juste.